Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 16th through the 26th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your bedroom, living room, or home office, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Livre 6, deuxième partie, du Paradis perdu de John Milton. Traduit par François René, vicomte de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Thomas Copeland. La nuit à présent commençait sa course, répandant dans le ciel l'obscurité. Elle imposa le silence et une agréable trêve à l'odieux fracas de la guerre. Sous son abri nébuleux se retirèrent le vainqueur et le vaincu. Michel et ses anges, restés les maîtres, campent sur le champ de bataille, posent leurs sentinelles alentour, chérubins agitant des flammes. De l'autre part, Satan, avec ses rebelles, disparut, au loin retiré dans l'ombre. Privé de repos, il appelle de nuit ses potentats au conseil. Au milieu d'eux, et non découragés, il leur parle ainsi. Ô vous, à présent par le danger éprouvé, à présent connu dans les armes pour ne pouvoir être dominé, chers compagnons, trouvez non seulement digne de la liberté, trop mince prétention, mais ce qui nous touche davantage, digne d'honneur, d'empire, de gloire et de renommée, vous avez soutenu pendant un jour, dans un combat douteux, si pendant un jour, pourquoi pas pendant des jours éternels, vous avez soutenu l'attaque de ce que le Seigneur du ciel, autour de son trône, avait à envoyer de plus puissant contre nous, ce qu'il avait jugé suffisant pour nous soumettre à sa volonté. Il n'en est pas ainsi arrivé. Donc, ce me semble, nous pouvons le regarder comme faillible lorsqu'il s'agit de l'avenir, bien que jusqu'ici on avait cru à son omniscience. Il est vrai, moins fortement armé, nous avons eu quelques désavantages, nous avons enduré quelques souffrances jusqu'alors inconnues, mais aussitôt qu'elles ont été connues, elles ont été méprisées, puisque nous savons maintenant que notre forme empirée, ne pouvant recevoir d'atteinte mortelle, est impérissable. Quoique percée de blessures, elle se referme bientôt, guérie par sa vigueur native. Ah, mal si léger, regardez donc le remède comme facile. Peut-être des armes plus valides, des armes plus impétueuses serviront dans la prochaine rencontre à améliorer notre position, à rendre pire celle de nos ennemis, ou à égaliser ce qui fait entre nous l'imparité, qui n'existe pas dans la nature. Si quelque autre cause cachée les a laissés supérieurs, tant que nous conservons notre esprit entier et notre entendement sain, une délibération et une active recherche découvriront cette cause. Il s'assit, et dans l'assemblée se leva Nisroch, le chef des principautés. Il se leva comme un guerrier échappé d'un combat cruel, travaillé de blessures, ses armes fendues et hachées jusqu'à destruction. D'un air sombre, il parla en répondant ainsi. Libérateur, toi qui nous délivras des nouveaux maîtres, guide à la libre jouissance de nos droits comme Dieu. Il est dur cependant pour des dieux. Nous la trouvons trop inégale, la tâche de combattre dans la douleur contre des armes inégales, contre des ennemis exempts de douleur et impassibles. De ce mal, notre ruine doit nécessairement advenir. car que sert la valeur ou la force, quoique sans pareil, lorsqu'on est dompté par la douleur qui subjugue tout et fait lâcher les mains aux plus puissants? Peut-être pourrions-nous retrancher de la vie le sentiment du plaisir et ne pas nous plaindre mais vivre content, ce qui est la vie la plus calme. Mais la douleur est la parfaite misère, le pire des maux, et si elle est excessive, elle surmonte toute patience. Celui qui pourra donc inventer quelque chose de plus efficace pour porter des blessures à nos ennemis encore invulnérables, ou qui saura nous armer d'une défense pareille à la leur, ne méritera pas moins de moi que celui auquel nous devons notre délivrance. Satan, avec un visage composé, répliqua : ce secours, non encore inventé, que tu crois justement si essentiel à notre succès, je te la porte. Qui de nous contemple la brillante surface de ce terrain céleste sur lequel nous vivons, ce spacieux continent du ciel, orné de plantes, de fruits, de fleurs, d'ambroisie, de perles et d'or? Qui de nous regarde assez superficiellement ces choses pour ne pas comprendre d'où elles germent, profondément sous la terre? Matériau noir et cru, d'une écume spiritueuse et ignée, jusqu'à ce que touchée et pénétrée d'un rayon des cieux, elle pousse si belle et s'épanouisse dans la lumière ambiante. Ces semences, dans leur noire nativité, l'abîme nous les cédera, fécondées d'une flamme infernale. Foulées dans des machines creuses, longues et rondes, à l'autre ouverture dilatée et embrasée par le toucher du feu, avec le bruit de tonnerre, elles enverront de loin à notre ennemi de tels instruments de désastre qu'ils abîmeront, mettront en pièces tout ce qui s'élèvera à l'opposé. Nos adversaires craindront que nous n'ayons désarmé le Dieu tonnant de son seul trait redoutable. Notre travail ne sera pas long. Avant le lever du jour, l'effet remplira notre attente. Cependant, revivons, quittons la frayeur. À la force et à l'habileté réunies, songeons que rien n'est difficile, encore moins désespéré. Il dit. Ces paroles firent briller leur visage abattu et ravivèrent leur languissante espérance. Tous admirent l'invention. Chacun s'étonne de n'avoir pas été l'inventeur, tant paraît aisé, une fois trouvée, la chose qui, non trouvée, aurait été crue impossible. Par hasard, dans les jours futurs, si la malice doit abonder, quelqu'un de ta race, ô Adam, appliqué à la perversité ou inspiré par une machination diabolique, pourrait inventer un pareil instrument pour désoler les fils des hommes, entraînés par le péché à la guerre et au meurtre. Les démons, sans délai, volent du conseil à l'ouvrage. Nul ne demeura discourant. D'innombrables mains sont prêtes. En un moment, ils retournent largement le sol céleste et ils aperçoivent dessous les rudiments de la nature dans leur conception brute. Ils rencontrent des écumes sulfureuses et nitreuses, des maries, et par un art subtil les réduisent, adustes et cuites, en grains noirs, et les mettent en réserve. Les uns fouillent les veines cachées des métaux et des pierres, cette terre a des entrailles assez semblables, pour y trouver leurs machines et leurs balles, messagères du ruine. Les autres se pourvoient de roseaux allumés, pernicieux par un seul toucher du feu. Ainsi, avant le point du jour, ils finirent tout en secret, la nuit le sachant. Et se rangèrent en ordre, avec une silencieuse circonspection, sans être aperçu. Dès que le bel et matinal orient apparut dans le ciel, les anges victorieux se levèrent, et la trompette du matin chanta aux armes. Ils prirent leurs rangs en panoplie d'or, troupes resplendissantes, bientôt réunies. Quelques-uns du haut des collines de l'aurore regardent alentour, et des éclaireurs légèrement armés rôdent de tous côtés dans chaque quartier pour découvrir le distant ennemi, pour savoir dans quel lieu il est campé ou fui, si pour combattre il est en mouvement ou fait halte. Bientôt ils le rencontrèrent, bannières déployées, s'approchant en bataillant lent mais serré. En arrière, d'une vitesse extrême, Zophiel, des chérubins l'aile la plus rapide, vient volant et crie du milieu des airs « Aux armes, guerriers! Aux armes pour le combat! L'ennemi est prêt! Ceux que nous croyons en fuite nous épargneront ce jour une longue poursuite. Ne craignez pas qu'ils fuient. Ils viennent, aussi épais qu'une nuée, et je vois fixer sur leur visage la morne résolution et la confiance. Que chacun endosse bien sa cuirasse de diamant, que chacun enfonce bien son casque, que chacun embrasse fortement son large bouclier, baissé ou levé, car ce jour, si j'en crois mes conjectures, ne répandra pas une bruine, mais un orage retentissant de flèches barbelées de feu. » Ainsi Zophiel avertissait ceux qui, d'eux-mêmes, étaient sur leur garde. En ordre, libres de toutes entraves, s'embrassant sans trouble, ils vont au cri d'alarme et s'avancent en bataille. En voici venir à peu de distance, à pas pesant, l'ennemi s'approchant épais et vaste, traînant dans un carré creux ses machines diaboliques enfermées de tous côtés par des escadrons profonds qui voilaient la fraude. Les deux armées s'apercevant s'arrêtent quelque temps. Mais soudain, Satan parut à la tête de la sienne et fut entendu commandant ainsi à haute voix. « Avant-garde, à droite et à gauche, déployez votre front, afin que tous ceux qui nous haïssent puissent voir combien nous cherchons la paix et la conciliation, combien nous sommes prêts à les recevoir à cœur ouvert, s'ils accueillent nos ouvertures et s'ils ne nous tournent pas le dos méchamment. Mais je le crains. Cependant, témoin le ciel, au ciel soit témoin à cette heure que nous déchargeons franchement notre cœur. Vous qui désignez, vous tenez debout, acquittez-vous de votre charge. Touchez brièvement ce que nous proposons, et oh, que tous puissent entendre. » Ainsi se ralliant en termes ambigus, à peine a-t-il fini de parler, qu'à droite et à gauche le front se divise, et sur l'un et l'autre flanc se retire. À nos yeux se découvre, chose nouvelle et étrange, un triple rang de colonnes de bronze, de fer, de pierre, posées sur des roues, car elles auraient ressemblé beaucoup à des colonnes, ou à des corps creux faits de chêne ou de sapin émondés dans le bois, ou abattus sur la montagne. Si les hideux orifices de leur bouche eût bâillé largement devant nous, pronostiquant une fausse trêve. Derrière chaque pièce se tenait un séraphin. Dans sa main se balançait un roseau allumé, tandis que nous demeurions en suspens, réunis et préoccupés dans nos pensées. Ce ne fut pas long, car soudain, tous à la fois, les séraphins étendent le roseau et les appliquent à une ouverture étroite qu'il touche légèrement. À l'instant, tout le ciel apparut en flammes. mais aussitôt obscurcie par la fumée, l'âme vomit de ses machines à la gorge profonde, dont le rugissement effondrait l'air avec un bruit furieux et déchirait toutes ses entrailles, dégorgeant leur surabondance infernale des tonnerres ramés, des grêles de globes de fer. Dirigé contre l'host victorieux, il frappe avec une furie tellement impétueuse que ceux qu'il touche ne peuvent rester debout, bien qu'autrement ils seraient restés fermes comme des rochers. Ils tombent par milliers, l'ange roulé sur l'archange, et plus vite encore à cause de leurs armes. Désarmés, ils auraient pu aisément, comme esprit, s'échapper rapide par une prompte contraction ou par un déplacement. Mais alors, il s'ensuivit une honteuse dispersion et une déroute forcée. Il ne leur servit de rien de relâcher leurs fils serrés. Que pouvaient-ils faire? Se précipiteraient-ils en avant? Une répulsion nouvelle, une indécente chute répétée, les ferait mépriser davantage et les rendrait la risée de leurs ennemis. Car on apercevait ranger une autre ligne de séraphins en posture de faire éclater leur second tir de foudre. Reculer battu, c'est ce qu'aboraient le plus les anges fidèles. Satan vit leur détresse, et s'adressant en dérision à ses compagnons: « Amis, pourquoi ces superbes vainqueurs ne marchent-ils pas en avant? Tout à l'heure, ils s'avançaient fiers, et quand, pour les bien recevoir avec un front et un cœur ouvert, que pouvons-nous faire de plus? Nous leur proposons des termes d'accommodement. Soudain, ils changent d'idée, ils fuient et tombent dans d'étranges folies, comme s'ils voulaient danser. Toutefois, pour une danse, ils semblent un peu extravagants et sauvages. Peut-être est-ce de joie de la paix offerte. Mais je suppose que si une fois de plus nos propositions étaient entendues, nous les pourrions contraindre à une prompte résolution. » Bélial, sur le même ton de plaisanterie: « Général, les termes d'accommodement que nous leur avons envoyés sont des termes de poing, d'un contenu solide et plein d'une force qui porte coup. Ils sont tels, comme nous pouvons le voir, que tous en ont été amusés et plusieurs étourdis. Celui qui les reçoit en face est dans la nécessité, de la tête aux pieds, de les bien comprendre. S'ils ne sont pas compris, ils ont du moins l'avantage de nous faire connaître quand nos ennemis ne marchent pas droit. » Ainsi, dans une veine de gaieté, ils bouffonnaient entre eux, élevés dans leurs pensées au-dessus de toute incertitude de victoire. Ils présumaient si facile d'égaler par leurs inventions l'éternel pouvoir qu'ils méprisaient son tonnerre et qu'ils riaient de son armée, tandis qu'elle resta dans le trouble. Elle n'y resta pas longtemps. La rage inspira enfin les légions fidèles et leur trouva des armes à opposer à cet infernal malheur. Aussitôt, admire l'excellence et la force que Dieu a mise dans ses anges puissants, ils jettent de loin leurs armes. Légers comme le sillon de l'éclair, ils courent, ils volent aux collines. Car la terre tient du ciel cette variété agréable de collines et de vallées. Ils les ébranlent en les secouant çà et là dans leurs fondements, arrachent les montagnes avec tout leur poids, rochers, fleuves, forêts, et les enlevant par leur tête chevelue, les portent dans leurs mains. L'étonnement, et sois en sûr, la terreur saisirent les rebelles quand, venant si redoutable vers eux, ils virent le fond des montagnes tourner en haut, jusqu'à ce que, lancés sur le triple rang des machines maudites, ces machines, et toute la confiance des ennemis furent profondément ensevelies sur le fait de ces monts. Les ennemis eux-mêmes furent envahis après. Au-dessus de leur tête volaient de grands promontoires qui venaient dans l'air répandant l'ombre et accablaient des légions entières armées. Leurs armures accroissaient leur souffrance. Leur substance, enfermée dedans, était écrasée et broyée, ce qui les travaillait d'implacables tourments et leur arrachait des gémissements douloureux. Longtemps ils luttèrent sous cette masse avant de pouvoir s'évaporer d'une telle prison, quoiqu'esprit de la plus pure lumière, la plus pure naguère, maintenant devenue grossière par le péché. Le reste de leurs compagnons, nous imitant, saisit de pareilles armes et arracha des coteaux voisins. Ainsi, les monts rencontrent dans l'air les monts, lancés de part et d'autre avec une projection funeste, de sorte que sous la terre on combat dans une ombre effrayante, bruit infernal. La guerre ressemble à des jeux publics auprès de cette rumeur. Une horrible confusion entassée sur la confusion s'éleva. Et alors, tout le ciel serait allé en débris et se serait couvert de ruines si le Père Tout-Puissant, qui siège enfermé dans son inviolable sanctuaire des cieux, faisant l'ensemble des choses, n'avait prévu ce tumulte et n'avait tout permis pour accomplir son grand dessein. Honorer son Fils consacré, vengé de ses ennemis, et déclarer que tout pouvoir lui était transféré. À ce Fils, assesseur de son trône, il adresse ainsi la parole. Splendeur de ma gloire, Fils bien-aimé, Fils sur le visage duquel est vu visiblement ce que je suis invisible dans ma divinité, toi dont la main exécute ce que je fais par décret, seconde omnipotence. Deux jours sont déjà passés, deux jours tels que nous comptons les jours du ciel, depuis que Michel est parti avec ses puissances pour dompter ses désobéissants. Le combat a été violent, comme il était très probable qu'il le serait, quand deux pareils ennemis se rencontrent en armes, car je les ai laissés à eux-mêmes, et tu sais qu'à leur création je les fis écho, et que le péché seul les a dépareillés, lequel encore a opéré insensiblement, car je suspends leur arrêt. Dans un perpétuel combat, il leur faudrait donc nécessairement demeurer sans fin, et aucune solution ne serait trouvée. La guerre lassée a accompli ce que la guerre peut faire, et elle a lâché les rênes à une fureur désordonnée, se servant de montagnes pour armes, œuvre étrange dans le ciel et dangereuse à toute la nature. Deux jours se sont donc écoulés, le troisième est tien. À toi je l'ai destiné, et j'ai pris patience jusqu'ici, afin que la gloire de terminer cette grande guerre t'appartienne, puisque nul autre que toi ne la peut finir. En toi j'ai transfusé une vertu, une grâce, si immense que tous, au ciel et dans l'enfer, puissent connaître ta force incomparable. Cette commotion perverse ainsi apaisée manifestera que tu es le plus digne d'être héritier de toutes choses, d'être héritier et d'être roi par l'onction sainte, ton droit mérité. Va donc, toi, le plus puissant, dans la puissance de ton père. Monte sur mon chariot, guide les roues rapides qui ébranlent les bases du ciel. Emporte toute ma guerre, mon arc et mon tonnerre. Revêt mes toutes puissantes armes et suspends mon épée à ta forte cuisse. Poursuis ces fils des ténèbres, chasse-les de toutes les limites du ciel dans l'abîme extérieur. Là, qu'ils apprennent, puisque cela leur plaît, à mépriser Dieu et le Messie, son roi consacré. Il dit, et sur son fils, ses rayons directs brillent en plein. Lui reçut ineffablement sous son visage tout son père, pleinement exprimé. Et la divinité filiale répondit ainsi. Ô Père, ô souverain des trônes célestes, le premier, le très haut, le très saint, le meilleur, tu as toujours cherché à glorifier ton Fils, moi toujours à te glorifier, comme il est très juste. Ceci est ma gloire, mon élévation et toute ma félicité. Que te complaisant en moi, tu déclares ta volonté accomplie. L'accomplir est tout mon bonheur. Le sceptre et le pouvoir, ton présent, je les accepte. Et avec plus de joie, je te les rendrai, lorsqu'à la fin des temps, tu seras tout en tout. Et moi, en toi, pour toujours, et en moi, tout ce que tu aimes. Mais celui que tu es, je le hais, et je puis me revêtir de tes terreurs, comme je me revais de tes miséricordes, image de toi en toutes choses. Armé de ta puissance, j'affranchirai bientôt le ciel de ces rebelles, précipités dans leur mauvaise demeure préparée. Ils seront livrés à des chaînes de ténèbres et aux vers qui ne meurent point, ces méchants qui ont pu se révolter contre l'obéissance qui t'est due, toi à qui obéir est la félicité suprême. Alors ces saints, sans mélange et séparés loin des impurs, entoureront ta montagne sacrée, te chanteront des alléluias sincères, des hymnes de haute louange, et avec eux, moi, leur chef. Il dit, s'inclinant sur son sceptre, il se leva de la droite de gloire où il siège. Et le troisième matin sacré, perçant à travers le ciel, commençait à briller. Soudain, ses lances, avec le bruit d'un tourbillon, le chariot de la divinité paternelle, jetant d'épaisses flammes, roues dans les roues, char non tiré, moins animé d'un esprit et escorté de quatre formes de chérubins. Ces figures ont chacune quatre faces surprenantes. Tout leur corps et leurs ailes sont semés d'yeux, semblables à des étoiles. Les roues de béryl ont aussi des yeux, et dans leur course, le feu en sort de tous côtés. Sur leur tête est un firmament de cristal, où s'élève un trône de saphir, marqueté d'ambre pur et des couleurs de l'arc pluvieux. Tout armé de la panoplie céleste du radieux Urim, ouvrage divinement travaillé, le Fils monte sur ce char. À sa main droite est assise la victoire, aux ailes d'aigle. À son côté pendent son arc et son carquois, rempli de trois carreaux de foudre. Et autour de lui roulent des flots furieux de fumée, de flammes belliqueuses et d'étincelles terribles. Accompagné de 10 000 saints, il s'avance. Sa venue brille au loin, et 20 000 chariots de Dieu, j'en ai ouï compter le nombre, sont vus à l'un et à l'autre de ses côtés. Lui, sous les ailes des chérubins, est porté sublime dans le ciel de cristal sur un trône de saphir éclatant de loin. Mais les siens l'aperçurent les premiers. Une joie inattendue les surprit quand flamboya, porté par des anges, le grand étendard de Messie, son signe dans le ciel. Sous cet étendard, Michel réunit aussitôt ses bataillons. répandus sur les deux ailes, et sous leur chef ils ne forment plus qu'un seul corps. Devant le Fils, la puissance divine préparait son chemin. À son ordre, les montagnes déracinées se retirèrent chacune à leur place. Elles entendirent sa voix, s'en allèrent obéissantes. Le ciel renouvelé reprit sa face accoutumée, et avec de fraîches fleurs, la colline et le vallon sourirent. Ils virent cela, les malheureux ennemis, mais ils demeurèrent endurcis, et pour un combat rallièrent leur puissance, insensés, concevant l'espérance du désespoir. Tant de perversité peut-elle habiter dans des esprits célestes? Mais pour convaincre l'orgueilleux, à quoi servent les prodiges? Ou quelles merveilles peuvent porter l'opiniâtre à céder? Ils s'obstineront davantage par ce qui devait le plus les ramener. Désolés de la gloire du Fils, à cette vue, l'envie les saisit, aspirant à sa hauteur. Ils se remirent fièrement en bataille, résolus par force ou par fraude de réussir et de prévaloir à la fin contre Dieu et son Messie, ou de tomber dans une dernière et universelle ruine. Maintenant, ils se préparent au combat décisif, dédaignant la fuite ou une lâche retraite. Quand le grand Fils de Dieu, à toute son armée rangée à sa droite et à sa gauche, parla ainsi. Restez toujours tranquilles dans cet ordre brillant, vous, saints. Restez ici, vous, anges armés. Ce jour reposez-vous de la bataille. Fidèle a été votre vie guerrière, et elle est acceptée de Dieu. Sans crainte, dans sa cause juste, ce que vous avez reçu, vous avez employé invinciblement. Mais le châtiment de cette bande maudite appartient à un autre bras. La vengeance est à lui, ou à celui qu'il en a seul chargé. Ni le nombre, ni la multitude ne sont appelés à l'œuvre de ce jour. Demeurez seulement et contemplez l'indignation de Dieu, versée par moi sur ces impies. Ce n'est pas vous, c'est moi qu'ils ont méprisé, moi qu'ils ont envié, contre moi et toute leur rage, parce que le Père, à qui dans le royaume suprême du ciel la puissance et la gloire appartiennent, m'a honoré selon sa volonté. C'est donc pour cela qu'il m'a chargé de leur jugement, afin qu'ils aient ce qu'ils souhaitent, l'occasion d'essayer avec moi dans le combat qui est le plus fort, d'eux contre moi ou de moi seul contre eux. Puisqu'ils mesurent tout par la force, qu'ils ne sont jaloux d'aucune autre supériorité, que peu leur importe qui les surpasse autrement, je consens à n'avoir pas avec eux d'autres disputes. Ainsi parla le Fils, et en terreur changea sa contenance, trop sévère pour être regardé. Rempli de colère, il marche à ses ennemis. Les quatre figures déploient à la fois leurs ailes étoilées avec une ombre formidable et continue. Et les orbes de son char de feu roulèrent avec le fracas du torrent des grandes eaux ou d'une nombreuse armée. Lui, sur ses impies adversaires, fond droit en avant, sombre comme la nuit. Sous ses roues brûlantes, l'immobile empyré trembla dans tout son entier, tout excepté le trône même de Dieu. Bientôt, il arrive au milieu d'eux. Dans sa main droite, tenant 10 000 tonnerres, il les envoie devant lui tel qu'il perce de plaies les âmes des rebelles. Étonnés, ils cessent toute résistance, ils perdent tout courage, leurs armes inutiles tombent. sur les boucliers et les casques et les têtes des trônes et des puissants séraphins prosternés, le Messie passe. Il souhaite alors que les montagnes soient encore jetées sur eux comme un abri contre sa colère. Non moins tempestueuse, des deux côtés, ses flèches partent des quatre figures à quatre visages semés d'yeux, et sont jetées par les roues vivantes également semées d'une multitude d'yeux. Un esprit gouvernait ces roues. Chaque œil lançait des éclairs, et dardait parmi les maudits une pernicieuse flamme qui flétrissait toute leur force, desséchait leur vigueur accoutumée, et les laissait épuisés, découragés, désolés, tombés. Encore le Fils de Dieu n'employa-t-il pas la moitié de sa force, mais retint à moitié son tonnerre, car son dessein n'était pas de les détruire, mais de les déraciner du ciel. Il releva ceux qui étaient abattus, et comme une horde de boucs, un troupeau timide, pressé ensemble, il les chasse devant lui, foudroyés par les terreurs et les furies, jusqu'aux limites et à la muraille de cristal du ciel. Le ciel s'ouvre, se roule en dedans et laisse à découvert par une brèche spacieuse l'abîme dévasté. Cette vue monstrueuse les frappe d'horreur. Ils reculent, mais une horreur bien plus grande les repousse. Tête baissée, ils se jettent eux-mêmes en bas du bord du ciel. La colère éternelle brûle après eux dans le gouffre sans fond. L'enfer entendit le bruit épouvantable. L'enfer vit le ciel croulant du ciel. Il aurait fui effrayé. Mais l'inflexible destin avait jeté trop profondément ses bases ténébreuses. Elle avait trop fortement lié. 9 jours ils tombèrent. Le chaos confondu rugit et sentit une décuple confusion dans leur chute à travers sa féroce anarchie. Tant cette énorme déroute l'encombra de ruines. L'enfer béant les reçut tous enfin et se referma sur eux. L'enfer, le convenable demeure. L'enfer, pénétré d'un feu inextinguible, maison de malheur et de tourment. Le ciel, soulagé, se réjouit. Il répara bientôt la brèche de sa muraille en retournant au lieu d'où il s'était replié. Seul vainqueur par l'expulsion de ses ennemis, le Messie ramena son char de triomphe. Tous ces saints, qui, silencieux, furent témoins oculaires de ses actes tout-puissants, pleins d'allégresse, au-devant de lui s'avancèrent, et dans leur marche, ombragée de palmes, chaque brillante hiérarchie chantait le triomphe, le chantait, lui, roi victorieux, fils, héritier et seigneur. À lui, tout pouvoir est donné. De régner, il est le plus digne. Célébré, il passe triomphant au milieu du ciel, dans les parvis et dans le temple de son Père tout-puissant élevé sur un trône. Son Père le reçut dans la gloire, où maintenant il est assis à la droite de la béatitude. C'est ainsi que, mesurant les choses du ciel aux choses de la terre, à ta demande, ô Adam, et pour que tu sois en garde par ce qui s'est passé, je t'ai révélé ce qui autrement aurait pu demeurer caché à la race humaine. La discorde survenue et la guerre dans le ciel entre les puissances angéliques et la chute profonde de ceux qui, aspirant trop haut, se révoltèrent avec Satan. Il est maintenant jaloux de ton état. et complotent pour te détourner aussi de l'obéissance, afin qu'avec lui privé de félicité, tu partages son châtiment, l'éternelle misère. Ce serait toute sa consolation et sa vengeance s'il pouvait, comme une peine faite au Très-Haut, t'obtenir une fois pour compagnon de son malheur. Mais ne prête pas l'oreille à ses tentations. Avertis ta plus faible. Profite d'avoir appris d'un exemple terrible la récompense de la désobéissance. Ils auraient pu demeurer fermes. Cependant, ils tombèrent. Qu'ils t'en souviennent et craint de transgresser. Fin du livre 6, deuxième partie, enregistré par Thomas Copeland. Livre 7 du Paradis perdu de John Milton, traduit par François René, vicomte de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Thomas Copeland. Livre 7. Argument. Raphaël, à la demande d'Adam, raconte comment et pourquoi ce monde a été d'abord créé. Dieu, ayant expulsé du ciel Satan et ses anges, déclara que son plaisir était de créer un autre monde et d'autres créatures pour y habiter. Il envoie son Fils dans la gloire et avec un cortège d'anges pour accomplir l'œuvre de la création en 6 jours. Les anges célèbrent par des cantiques cette création et la réascension du Fils au ciel. « Descends du ciel, Uranie, si de ce nom tu es justement appelé. En suivant ta voix divine, j'ai pris mon essor au-dessus de l'Olympe, au-dessus du vol de l'aile de Pégase. Ce n'est pas le nom, c'est le sens de ce nom que j'invoque. Car tu n'es pas une des 9 muses, et tu n'habites pas le sommet du vieil Olympe, mais né du ciel, avant que les collines parussent ou que la fontaine coulât. Tu conversais avec l'éternelle sagesse, la sagesse ta sœur, et tu jouais avec elle en présence du Père Tout-Puissant, qui se plaisait de ton chant céleste. Enlevé par toi, je me suis hasardé dans le ciel des cieux, moi, hôte de la terre, et j'ai respiré l'air de l'empyrée que tu tempérais. Avec la même sûreté, guide en bas, rends-moi mon élément natal, de peur que démonté, par le coursier volant sans frein, comme autrefois Bellérophon dans une région plus abaissée, je ne tombe sur le champ alcien, pour y errer, égarer et abandonner. La moitié de mon sujet reste encore à chanter, mais dans les bornes plus étroites de la sphère diurne et visible, arrêtée sur la terre, non ravi au-dessus du pôle, je chanterai plus sûrement d'une voix mortelle. Elle n'est devenue ni enrouée ni muette, quoique je sois tombé dans de mauvais jours. Dans de mauvais jours, quoique tombé, parmi des langues mauvaises, parmi les ténèbres et la solitude, et entouré de périls. Cependant, je ne suis pas seul. Lorsque la nuit, tu visites mes sommeils, ou lorsque le matin, empourpre l'Orient, préside toujours à mes chants, Uranie, et trouve un auditoire convenable, quoique peu nombreux. Mais chasse au loin la barbare dissonance de Bacchus et de ses amis de la joie, race de cette horde forcenée, qui déchira le barde de la thrace sur le rhodope, où l'oreille des bois et des rochers était ravie, jusqu'à ce que la clameur sauvage eût noyé la harpe et la voix. La muse ne put défendre son fils. Tu ne manqueras pas ainsi, Uranie, à celui qui t'implore, car toi, tu es un songe céleste, elle, un songe vain. Dis, ô déesse, ce qui suivit après que Raphaël, l'archange affable, eut averti Adam de se garder de l'apostasie, par l'exemple terrible de ce qui arriva dans le ciel à ses apostats, de peur qu'il n'en arrivât de même dans le paradis à Adam et à sa race, chargé de ne pas toucher à l'arbre interdit, s'il transgressait et méprisait ce seul commandement, si facile à observer, au milieu du choix de tous les autres goûts qui pouvaient plaire à leurs appétits, quel qu'en fût le caprice. Adam, avec Ève, sa compagne, avait écouté attentivement l'histoire. Il était rempli d'admiration et plongé dans une profonde rêverie en écoutant des choses si élevées et si étranges, choses à leur pensée si inimaginables. La haine dans le ciel, la guerre si près de la paix de Dieu dans le bonheur, avec une telle confusion. Mais bientôt le mal chassé retombait comme un déluge sur ceux dont il avait jailli, impossible à mêler à la béatitude. Maintenant, Adam réprima bientôt les doutes qui s'élevaient dans son cœur, et les conduit, encore sans péché, par le désir de connaître ce qui le touche de plus près. Comment ce monde visible du ciel et de la terre commença? Quand et d'où il fut créé? Pour quelle cause? Ce qui fut fait en dedans ou en dehors d'Éden, avec ce dont il a souvenir. Comme un homme de qui l'altération est à peine soulagée, suit de l'œil le cours du ruisseau dont le liquide murmure, entendu, excite une soif nouvelle, Adam procède de la sorte à interroger son hôte céleste. De grandes choses et pleines de merveilles, bien différentes de celles de ce monde, tu as révélées à nos oreilles, interprète divin, par faveur envoyé de l'Empyrée pour nous avertir à temps de ce qui aurait pu causer notre perte s'il nous eût été inconnu, l'humaine connaissance n'y pouvant atteindre. Nous devons des remerciements immortels à l'infinie bonté, et nous recevons son avertissement avec une résolution solennelle d'observer invariablement sa volonté souveraine, la fin de ce que nous sommes. Mais puisque tu as daigné avec complaisance nous faire part pour notre instruction de choses au-dessus de la pensée terrestre, chose qu'il nous importait de savoir comme il l'a semblé à la suprême sagesse, daigne maintenant descendre plus bas et nous raconter ce que peut-être il ne nous est pas moins utile de savoir. Quand commença le ciel que nous voyons si distant et si haut, orné de feux mouvants et innombrables? Qu'est-ce que cet air ambiant qui donne ou remplit tout espace, cet air largement répandu, embrassant tout autour cette terre fleurie? Quelle cause mut le Créateur, dans son saint repos de toute éternité, à bâtir si tard dans le chaos? Et comment l'ouvrage commencé fut tôt achevé, s'il n'était pas défendu? Tu peux nous dévoiler ce que nous demandons, non pour sonder les secrets de son éternel empire, mais pour glorifier d'autant plus ses œuvres que nous les connaîtrons davantage. Et la grande lumière du jour a encore parcouru beaucoup de sa carrière, quoique déjà sur son déclin. Suspendu dans le ciel, le soleil, retenu par ta voix, écoute ta voix puissante. il s'arrêtera plus longtemps pour te ouïr raconter son origine et le lever de la nature du sein du confus abîme, ou si l'étoile du soir et la lune à ton audience se hâtent, la nuit avec elle amènera le silence. Le sommeil, en t'écoutant, veillera. Ou bien nous pourrons lui commander l'absence jusqu'à ce que ton chant finisse et te renvoie avant que brille le matin. Ainsi Adam supplia son hôte illustre, et ainsi l'ange, semblable à un dieu, lui répondit avec douceur. Que cette demande, faite avec prudence, te soit accordée. Mais pour raconter les œuvres du Tout-Puissant, quelles paroles, quelles langues de séraphin peuvent suffire? Ou quel cœur d'homme suffirait à les comprendre? Cependant, ce que tu peux atteindre, ce qui peut le mieux servir à glorifier le Créateur et à te rendre aussi plus heureux, ne sera pas soustrait à ton oreille. J'ai reçu la commission d'en haut de répondre à ton désir de savoir dans certaines limites. Au-delà, abstiens-toi de demander. Ne laisse pas tes propres imaginations espérer des choses non révélées, que le roi invisible, seul omniscient, a enseveli dans la nuit, incommunicables à personne, sur la terre ou dans le ciel. Assez reste en dehors de cela, à chercher et à connaître. Mais la science est comme la nourriture. Elle n'a pas moins besoin de tempérance pour en régler l'appétit et pour savoir en quelle mesure l'esprit la peut bien supporter. Autrement, elle oppresse par son excès et change bientôt la sagesse en folie, comme la nourriture en fumée. Sache donc. Après que Lucifer, ainsi appelé parce qu'il brillait autrefois dans l'armée des anges, plus que cette étoile parmi les étoiles, eût été précipité du ciel dans son lieu avec ses légions brûlantes à travers l'abîme, le Fils étant retourné victorieux avec ses saints, le Tout-Puissant, éternel Père, contempla de son trône la multitude et parla de la sorte à son Fils. Du moins, notre jaloux ennemi s'est trompé, lui qui croyait que tous comme lui seraient rebelles. Par leur secours, ils se flattaient, nous une fois dépossédés, de saisir cette inaccessible et haute forteresse, siège de la divinité suprême. Dans sa trahison, il a entraîné plusieurs dont la place ici n'est plus connue. Cependant, la plus grande partie, je le vois, garde toujours son poste. Le ciel, peuplé encore, conserve un nombre suffisant d'habitants pour remplir ses royaumes, quoique vastes, pour fréquenter ce haut temple avec des observances dues et des rites solennels. Mais de peur que le cœur de l'ennemi ne s'enfle du mal déjà fait en dépeuplant le ciel, ce qu'il estime follement être un dommage pour moi, je puis réparer ce dommage. Si c'en est un, de perdre ce qui est perdu de soi-même, dans un moment je créerai un autre monde. D'un seul homme, je créerai une race d'hommes innombrables pour habiter là, non ici, jusqu'à ce qu'élevé par degré de mérite, éprouvé par une longue obéissance, ils s'ouvrent eux-mêmes enfin le chemin pour monter ici. Et que la terre changée dans le ciel et le ciel dans la terre ne forme plus qu'un royaume, en joie et en union sans fin. En attendant, demeurez moins pressés, vos pouvoirs célestes, et toi, mon Verbe, Fils engendré, par toi j'opère ceci. Parle et qu'il soit fait. Avec toi j'envoie ma puissance et mon esprit, qui couvre tout de son ombre. Va et ordonne à l'abîme, dans les limites fixées, d'être terre et ciel. L'abîme est sans borne parce que je suis. L'infini est rempli par moi. L'espace n'est pas vide. Quoique je ne sois circonscrit dans aucune étendue, je me retire et n'étends pas partout ma bonté, qui est libre d'agir ou de n'agir pas. Nécessité et hasard n'approchent pas de moi. Ce que je veux est destin. Ainsi parla le Tout-Puissant. Et ce qu'il avait dit, son Verbe, la divinité filiale, l'exécuta. Immédiats sont les actes de Dieu, plus rapides que le temps et le mouvement. Mais à l'oreille humaine, ils ne peuvent être dits que par la succession du discours, et dits de telle sorte que l'intelligence terrestre puisse les recevoir. Grand triomphe et grande réjouissance furent aux cieux quand la volonté du Tout-Puissant fut ainsi déclarée. Ils chantèrent « Gloire au Très-Haut, bonne volonté aux hommes à venir et paix dans leur demeure. Gloire à celui dont la juste colère vengeresse a chassé le méchant de sa vue et des habitations du juste. À lui gloire et louange, dont la sagesse a ordonné de créer le bien du mal. Au lieu des malins esprits, une race meilleure sera mise dans leur place vacante, et sa bonté se répandra dans des mondes et dans des siècles sans fin. » Ainsi chantaient les hiérarchies. Cependant, le Fils parut pour sa grande expédition sainte de la toute-puissance, couronnée des rayons de la majesté divine, la sagesse et l'amour immense, et tout son Père brillait en lui. Autour de son char se répandaient sans nombre chérubins, séraphins, potentats, trônes, vertus, esprits ailés, et les chars ailés de l'arsenal de Dieu, ces chars de toute antiquité, placés par myriades entre deux montagnes d'airain, étaient réservés pour un jour solennel, tout prêt, harnaché, équipage céleste. Maintenant, elles se présentent spontanément, car on ne vit un esprit, pour faire cortège à le maître. Le ciel ouvrit dans toute la rageur, ses portes éternelles, tournant sur le gond d'or avec un son harmonieux, pour laisser passer le roi de gloire dans son puissant Verbe et dans son esprit, qui venait créer de nouveaux mondes. Ils s'arrêtèrent tous sur le sol du ciel et contemplèrent du bord l'incommensurable abîme, orageux comme une mer, sombre, dévastée, sauvage, bouleversée jusqu'au fond par des vents furieux, enflant des vagues comme des montagnes pour assiéger la hauteur du ciel et pour confondre le centre avec le pôle. Silence, vous, vagues troublées, et toi, abîme, paix, dit le Verbe qui fait tout. Cessez vos discordes. Il ne s'arrêta point, mais enlevé sur les ailes des chérubins, plein de la gloire paternelle, il entra dans le chaos et dans le monde qui n'était pas né. Car le chaos entendit sa voix. Le cortège des anges le suivait dans une procession brillante, pour voir la création et les merveilles de sa puissance. Alors il arrête les roues ardentes et prend dans sa main le combat d'or, préparé dans l'éternel trésor de Dieu, pour tracer la circonférence de cet univers et de toutes les choses créées. Une pointe de ce combat, il appuie au centre et tourne l'autre dans la vaste et obscure profondeur. Et il dit, « Jusque-là étends-toi, Jusque-là vont les limites. Que ceci soit ton exacte circonférence au monde. Ainsi Dieu créa le ciel, ainsi il créa la terre, matière informe et vide. De profondes ténèbres couvraient l'abîme, mais sur le calme des eaux, l'Esprit de Dieu étendit ses ailes paternelles et infusa la vertu vitale et la chaleur vitale à travers la masse fluide, mais il précipita en bas la lie noire, tartaréenne, froide, infernale, opposée à la vie. Alors il réunit, alors il congloba les choses semblables avec les choses semblables. Il répartit le reste en plusieurs places et étendit l'air entre les objets. La terre, d'elle-même balancée, sur son centre posa. « Que la lumière soit !» dit Dieu. Soudain, la lumière éthérée, première des choses, quintessence pure, jaillit de l'abîme, et, partie de son orient natal, elle commença à voyager à travers l'obscurité aérienne, enfermée dans un nuage sphérique rayonnant, car le soleil n'était pas encore. Dans ce nuageux tabernacle, elle séjourna quelque temps. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres par hémisphère. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Il ne passa pas sans être célébré ce jour, sans être chanté par les chœurs célestes. Lorsqu'ils virent l'Orient, pour la première fois excellant la lumière des ténèbres, jour de naissance du ciel et de la terre. Ils remplirent de cris de joie et d'acclamations l'orbe universel. Ils touchèrent leur harpe d'or, glorifiant par des hymnes Dieu et ses œuvres. Ils le chantèrent Créateur quand le premier soir fut et quand fut le premier matin. Dieu dit d'Ereshkigal, que le firmament soit au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament, étendu d'air élémentaire, liquide, pur, transparent, répandu en circonférence jusqu'à la convexité la plus reculée de son grand cercle, division ferme et sûre, séparant les eaux inférieures de celles qui sont au-dessus. Car ainsi que la terre, Dieu bâtit le monde sur les eaux calmes circonfluentes, dans un large océan de cristal, et fort éloigné du bruyant désordre du chaos, de peur que ses rudes extrémités contiguës ne dérangeassent la structure entière de ce monde. Et Dieu donna au firmament le nom de ciel. Ainsi, du soir et du matin, le chœur chanta le second jour. La terre était créée, mais encore ensevelie, embryon, prématurée, dans les entrailles des eaux, elle n'apparaissait pas. Sur toute la surface de la terre, le plein océan s'étendit, non inutile, car par une humidité tiède et prolifique attendrissant tout le globe de la terre, il faisait fermenter cette mer commune pour qu'elle pût concevoir, saturée d'une moiteur vivifiante. Dieu dit alors que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent dans un seul lieu et que l'élément aride paraisse. Aussitôt apparaissaient les montagnes énormes émergentes et leurs larges dos pelés se soulevant jusqu'au nu. Leur tête monte dans le ciel. Aussi haute que s'élevèrent les collines intumescentes, aussi bas s'abaissa un bassin creux et profond, ample lit des eaux. Elles y courent avec une précipitation joyeuse, enroulés comme des gouttes sur la poussière qui se forment en globules par l'aridité. Une partie de ces eaux avec hâte s'élève en murs de cristal ou en montagnes à pic. Telle fut la vitesse que le grand commandement imprima aux flots agiles. Comme des armées, à l'appel des trompettes, car tu as entendu parler d'armées, se trouvent autour de leurs étendards, ainsi la multitude liquide roule vague sur vague là où elle trouve une issue. Dans la pente escarpée, torrent impétueux, dans la plaine, courant paisible. Ni les rochers ni les collines n'arrêtent ces ondes, mais sous la terre, ou en longs circuits promenant leurs sinueuses erreurs, elles se frayent un chemin et percent dans le sol limoneux de profonds canaux. Chose facile avant que Dieu eût ordonné à la terre de devenir sèche partout, excepté entre ses bords où coulent aujourd'hui les fleuves qui entraînent incessamment leur humide cortège. Dieu appela terre l'élément aride, et le grand réservoir des eaux rassemblées, il l'appela mer. Il vit que cela était bon, et dit, « Que la terre produise de l'herbe verte, l'herbe qui porte de la graine, et des arbres fruitiers qui portent des fruits, chacun selon son espèce, et qui renferment leurs semences en eux-mêmes sur la terre. » À peine a-t-il parlé que la terre nue, jusqu'alors déserte et chauve, sans ornement, désagréable à la vue, poussa une herbe tendre qui revêtit universellement sa surface d'une charmante verdure. Alors, les plantes de différentes feuilles, qui soudain fleurirent en déployant leurs couleurs variées, égayèrent son sein suavement parfumé. Et celle-ci était à peine épanouie que la vigne fleurit, chargée d'une multitude de grappes, la courge enflée rampa, le chalumeau du blé se rangea en bataille dans son champ, l'humble buisson et l'arbrisseau mêlèrent leurs chevelures hérissées. Enfin s'élevèrent, comme en cadence, les arbres majestueux, et ils déployèrent leurs branches surchargées, enrichies de fruits ou emperlées de fleurs. Les collines se couronnèrent de hautes forêts, les vallées et les fontaines de touffes de bois, les fleuves de bordures le long de leurs cours. La terre à présent parut un ciel, séjour où les dieux pouvaient habiter, errer avec délice et se plaire à fréquenter les sacrés ombrages. Cependant, Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie sur la terre, et il n'y avait encore aucun homme pour labourer les champs. Mais il s'élevait du sol une vapeur de rosée qui humectait toute la terre et toutes les plantes des champs que Dieu créa avant qu'elles fussent dans la terre, toutes les herbes avant qu'elles grandissent sur la verte tige. Dieu vit que cela était bon. Et le soir et le matin célébrèrent le troisième jour. Le Tout-Puissant parla encore. Que les corps de lumière soient faits dans la haute étendue du ciel, afin qu'ils séparent le jour de la nuit, et qu'ils servent de signes pour les saisons, et pour les jours et le cours des années, et qu'ils soient pour flambeaux, comme je l'ordonne, leur office dans le firmament du ciel sera de donner la lumière à la terre. Et cela fut fait ainsi. Et Dieu fit deux grands corps lumineux, grands par leur utilité pour l'homme, le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Et il fit les étoiles, et les mit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre et pour régler le jour, et pour régler la nuit dans leur vicissitude, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit, en contemplant son grand ouvrage, que cela était bon. Car le soleil, sphère puissante, fut celui des corps célestes qu'il fit le premier, non lumineux d'abord, quoique de substance éthérée. Ensuite, il forma la lune globuleuse et les étoiles de toute grandeur. Et il sema le ciel d'étoiles comme un champ. Il prit la plus grande partie de la lumière dans son tabernacle de nuée. Il la transplanta et la plaça dans l'orbe du soleil, fait poreux pour recevoir et boire la lumière liquide, fait compacte pour retenir ses rayons recueillis. Aujourd'hui, grand palais de la lumière. Là, comme à leur fontaine, les autres astres se réparant, puisent la lumière dans leurs urnes d'or, et c'est là que la planète du matin dort ses cornes. Par impression ou par réflexion, ces astres augmentent leurs petites propriétés, bien que si loin de l'œil humain, on ne les voit que diminuer. D'abord, dans son orient, se montra le glorieux flambeau régent du jour. Il investit tout l'horizon de rayons étincelants, joyeux de courir vers son occident sur le grand chemin du ciel. Le pâle crépuscule et les pléiades formaient des danses devant lui, répandant une bénigne influence. Moins éclatante, mais à l'opposite, sur le même niveau dans l'ouest, la lune était suspendue. Miroir du soleil, elle en emprunte la lumière sur sa pleine face. Dans cet aspect, elle n'avait besoin d'aucune autre lumière, et elle garda cette distance jusqu'à la nuit. Alors, elle brilla à son tour dans l'Orient, sa révolution étant accomplie sur le grand axe des cieux. Elle régna dans son divisible empire avec 1000 plus petites lumières, avec 1000 et 1000 étoiles. Elles apparurent alors semant de paillettes l'hémisphère, ornées pour la première fois le luminaire radieux qui se couchèrent et se levèrent. Le joyeux soir et le joyeux matin couronnèrent le quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux engendrent les reptiles, abondants en frais, créatures vivantes, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, les ailes déployées sous le firmament ouvert du ciel. Et Dieu créa les grandes baleines, et tous les animaux qui ont la vie, tous ceux qui glissent dans les eaux et qu'elles produisent abondamment chacun selon son espèce. Il créa aussi les oiseaux pourvus d'ailes, chacun selon son espèce. Et il vit que cela était bon, et il le bénit en disant, « Croissez et multipliez, remplissez les eaux de la mer, les lacs et les rivières, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Aussitôt, les détroits et les mers, chaque golfe et chaque baie, fourmillent de frais innombrables et d'une multitude de poissons, qui, avec le nageoire et le brillantes écailles, glissent sous la verte vague. Leurs troupes forment souvent des bancs au milieu de la mer. Ceux-ci, solitaires ou avec leurs compagnons, broutent l'algue, leur pâture, et s'égarent dans les grottes de corail, où, se jouant, éclairs rapides, montrent au soleil leur rebondée parsemée de gouttes d'or. Ceux-là, à l'aise dans leur coquille de nacre, attendent leur humide aliment, ou dans une armure qui les couvre, et pillent leur proie sous les rochers. Le veau marin et les dauphins voûtés folâtrent dans l'eau calme, les poissons, d'une masse prodigieuse, d'un port énorme, se vautrant pesamment, font une tempête dans l'océan. Là, Léviathan, la plus grande des créatures vivantes, étendu sur l'abîme comme un promontoire, dort ou nage et semble une terre mobile. Ses ouïes attirent en dedans et ses naseaux rejettent au dehors une mer. Cependant, les antres tièdes, les marais, les rivages font éclore leurs couvées nombreuses de l'œuf, qui bientôt, se brisant, laisse apercevoir par une favorable fracture les petits, tout nus. Bientôt emplumés et en état de voler, ils ont toutes leurs ailes. Et avec un cri de triomphe, prenant l'essor dans l'air sublime, ils dédaignent la terre qu'ils voient en perspective sous un nuage. Ici l'aigle et la cigogne, sur les roches escarpées et sur la cime des cèdres, pâtissent leurs airs. Une partie des oiseaux plane indolemment dans la région de l'air. D'autres, plus sages, formant une figure, tracent le chemin commun. Intelligents de saison, ils font partir de caravanes aériennes qui volent au-dessus des terres et des mers, et d'une aile mutuelle facilite la fuite. Ainsi, les prudentes cigognes, portées sur les vents, gouvernent leur voyage de chaque année. L'air flotte tandis qu'elles passent, vannées par des plumes innombrables. De branche en branche, les oiseaux plus petits se lacient les bois de leurs champs et déploient jusqu'au soir leurs ailes peinturées. Alors même, le rossignol solennel ne cesse pas de chanter, mais toute la nuit, il soupire ses tendres laits. D'autres oiseaux encore baignent dans les lacs argentés et dans les rivières le sein du vêtu. Le cygne, au cou arqué, entre deux ailes blanches, manteau superbe, fait nager sa dignité avec ses pieds en guise de rame. Souvent il quitte l'humide élément, et s'élevant sur ses deux ailes tendues, il monte dans la moyenne région de l'air. D'autres, sur la terre, marchent ferme. Le coq crêté, dont le clarion sonne les heures silencieuses, et cet oiseau corne sa brillante queue, enrichie des couleurs vermeilles de l'arc-en-ciel et dieux étoilés. Ainsi, les eaux remplies de poissons et l'air d'oiseaux, le matin et le soir, solennisèrent le cinquième jour. Le sixième et dernier jour de la création se leva enfin au son des harpes du soir et du matin, quand Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants, chacun selon son espèce, les troupeaux et les reptiles et les bêtes de la terre, chacun selon son espèce. » La terre obéit, et soudain, ouvrant ses fertiles entrailles, elle enfanta dans une seule couche d'innombrables créatures vivantes, de forme parfaite, pourvues de membres et en pleine croissance. Du sol, comme de son gîte, se leva la bête fauve là où elle se tient d'ordinaire, dans la forêt déserte, le buisson, la fougeraie ou la caverne. Elles se levèrent par couples sous les arbres, elles marchèrent le bétail dans les champs et les prairies vertes, ceux-ci rares et solitaires, ceux-là en troupeaux, pâturant à la fois, et jaillis du sol en bandes nombreuses. Tantôt, les grasses mottes de terre mettent bas une génisse, tantôt paraît à moitié un lion roux, grattant pour rendre libre la partie postérieure de son corps. Alors il s'élance comme échappé de ses liens, et se dressant, secoue sa crinière tablée. L'once, le léopard et le tigre, se soulevant comme la taupe, jettent par-dessus eux en monticule la terre émiettée. Le cerf rapide de dessous le sol lève sa tête branchie. À peine Béhémoth, le plus gros des fils de la terre, peut dégager de son moule son vaste corps. Les brebis, les nœuds et bêlantes, poussent comme des plantes. Le cheval marin et le crocodile écailleux restent indécis entre la terre et l'eau. À la fois fut produit tout ce qui rampe sur la terre, insectes ou vers. Les uns, en guise d'ailes, agitent leurs souples éventails et décorent leurs plus petits linéaments réguliers de toutes les livrées de l'orgueil l'été, taches d'or et de pourpre, d'azur et de vert. Les autres tirent comme une ligne leur longue dimension, rayant la terre d'une sinueuse trace. Ils ne sont pas tous les moindres de la nature. Quelques-uns de l'espèce du serpent, étonnants en longueur et en grosseur, entrelacent leurs tortueux plis et y ajoutent des ailes. D'abord chemine l'économe fourmi, prévoyante de l'avenir. Dans un petit corps, elle renferme un grand cœur. Modèle peut-être, à l'avenir, de la juste égalité, elle unit en communauté ses tribus populaires. Ensuite parut en essaim l'abeille femelle, qui nourrit délicieusement son mari fainéant, et bâtit ses cellules de cire remplies de miel. Le reste est sans nombre, et tu sais leur nature, et tu leur donnas des noms, inutiles à te répéter. Il ne t'est pas inconnu le serpent, la bête la plus subtile des champs, d'une énorme étendue quelquefois. Il a des yeux d'airain, une crinière hirsute et terrible, quoiqu'il ne soit point nuisible, et qu'il obéisse à ton appel. Les cieux brillaient maintenant dans toute leur gloire et roulaient selon les mouvements que la main du grand premier moteur imprima d'abord à leur cours. La terre achevée, dans son riche appareil, souriait charmante. L'air, l'eau, la terre étaient fréquentés par l'oiseau qui vole, le poisson qui nage, la bête qui marche. Et le sixième jour n'était pas encore accompli. Il y manquait le chef-d'œuvre, la fin de tout ce qui avait été fait. Un être non courbé, non brute, comme les autres créatures, mais qui, doué de la sainteté de la raison, y dressait sa stature droite, et avec un front serein, se connaissant soi-même, gouvernait le reste. Un être qui, magnanime, eût correspondre d'ici avec le ciel, mais reconnaître dans sa gratitude d'où son bien de sang. Et le cœur, la voix, les yeux, dévotement dirigés là, adoraient, révéraient le Dieu suprême qui le fit chef de tous ses ouvrages. C'est pourquoi le Père Tout-Puissant, éternel, car où n'est-il pas présent, distinctement à son fils, parla de la sorte. Faisons à présent l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs, à toute la terre et à tous les reptiles qui se remuent sur la terre. Cela dit, il te forma, toi, Adam, toi, ô homme, poussière de la terre, et il souffla dans tes narines le souffle de vie. Il te créa à sa propre image, à l'image exacte de Dieu, et tu devins une âme vivante. Mâle te créa, mais il créa femelle ta compagne, pour ta race. Alors il bénit le genre humain et dit, croissez, multipliez et remplissez la terre, et vous la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux vivants qui se meuvent sur la terre, partout où ils ont été créés, car aucun lieu n'est encore désigné par un nom. De là, comme tu sais, il te porta dans ce délicieux bocage, dans ce jardin planté des arbres de Dieu, délectables à voir et à goûter. et il te donna libéralement tout le fruit agréable pour nourriture. Ici sont réunies toutes les espèces que porte toute la terre, variété infinie. Mais du fruit de l'arbre qui, goûté, produit la connaissance du bien et du mal, tu dois t'abstenir. Le jour où tu en manges, tu meurs. La mort est la peine imposée. Prends garde et gouverne bien ton appétit, de peur que le péché ne te surprenne. Et sa noire suivante, la mort. Ici, Dieu finit. Et tout ce qu'il avait fait, il regarda et vit que tout était entièrement bon. Ainsi, le soir et le matin accomplirent le sixième jour. Toutefois, non pas avant que le Créateur, cessant son travail, quoique non fatigué, retournât en haut, au ciel des cieux, sa sublime demeure, pour contempler de là ce monde nouvellement créé, cette addition à son empire, pour voir comment il se montrait en perspective de son trône. Combien bon, combien beau, répondant à sa grande idée. Il s'enleva, suivi d'acclamations, et au son mélodieux de 10 000 harpes qui faisaient entendre d'angéliques harmonies. La terre, l'air résonnaient, tu t'en souviens, car tu les entendis. Les cieux et toutes les constellations retentirent, les planètes s'arrêtèrent dans leur station pour écouter, tandis que la pompe brillante montait en jubilation. Il chantait « Ouvrez-vous, portes éternelles, ouvrez aux cieux vos portes vivantes, laissez entrer le grand Créateur, revenu magnifique de son ouvrage de 6 jours, un monde. Ouvrez-vous, et désormais ouvrez-vous souvent, car Dieu délecté daignera souvent visiter les demeures des hommes justes, et par une fréquente communication, il y enverra ses curés ailés pour les messages de sa grâce suprême. » Ainsi chantait le glorieux cortège dans son ascension. Le Verbe, à travers le ciel, qui ouvrit dans toute leur grandeur ses portes éclatantes, suivit le chemin direct jusqu'à la maison éternelle de Dieu. Chemin large et ample, dont la poussière est d'or et le pavé d'étoiles, comme les étoiles que tu vois dans galaxie, cette voie lactée que tu découvres la nuit, comme une zone poudrée d'étoiles. Et maintenant, sur la terre, le septième soir se leva dans Éden, car le soleil était couché, et le crépuscule, avant-coureur de la nuit, venait de l'Orient. Quant au saint mont, sommet élevé du ciel, trône impérial de la divinité, à jamais fixé, ferme et sûr, la puissance filiale arriva et s'assit avec son père. Car lui aussi, quoiqu'il demeurât à la même place, tel est le privilège de l'omniprésence, était allé invisible à l'ouvrage ordonné, lui commencement et fin de toute chose. Et se reposant alors du travail, il bénit et sanctifia le septième jour, parce qu'il se reposa ce jour-là de tout son ouvrage. Mais il ne fut pas chômé dans un sacré silence. La harpe eut du travail, ne se reposa pas. La flûte grave, le tympanon, toutes les orgues au clavier mélodieux, tous les sons touchés sur la corde ou le fil d'or confondirent de 12 accords entremêlés de voix, en chœur ou à l'unisson. Des nuages dansant fumant dans des encensoirs d'or cachèrent la montagne. La création et l'œuvre de 6 jours furent chantées. Grands sont tes ouvrages, ô Jéhovah, infini ton pouvoir. Quelle pensée te peut mesurer, quelle langue te raconter. Plus grand maintenant dans ton retour qu'après le combat des anges géants, toi, ce jour-là, tes foudres te magnifièrent, mais il est plus grand de créer que de détruire ce qui est créé. Qui peut te nuire, roi puissant, ou borner ton empire? Facilement as-tu repoussé l'orgueilleuse entreprise des esprits apostats et dissipé leurs vains conseils, lorsque dans leur impiété ils s'imaginèrent te diminuer, te retirer de toi la foule de tes adorateurs. Qui cherche à t'amoindrir ne sert contre son dessein qu'à manifester d'autant plus ta puissance. Tu emploies la méchanceté de ton ennemi et tu en fais sortir le bien. Témoin, ce monde nouvellement créé, autre ciel non loin de la porte du ciel, fondé en vue sur le pur cristallin, la mer de verre. Une étendue presque immense, ce ciel a de nombreuses étoiles, et chaque étoile a peut-être un monde destiné à être habité. Mais tu connais leur temps. Au milieu de ces mondes se trouve la terre, demeure des hommes, leur séjour agréable avec son océan inférieur répandu alentour. Trois fois heureux les hommes et les fils des hommes que Dieu a favorisés ainsi, qu'il a créés à son image pour habiter là et pour l'adorer, et en récompense régner sur toutes ses œuvres, sur la terre, la mer ou l'air, et multiplier une race d'adorateurs saints et justes. Trois fois heureux s'ils connaissent leur bonheur et s'ils persévèrent dans la justice. Ils chantaient ainsi, et l'empire retentit d'Alléluia. Ainsi fut gardé le jour du sabbat. Je pense maintenant, ô Adam, avoir pleinement satisfait ta requête qui demanda comment ce monde et la face des choses commencèrent d'abord, et ce qui fut fait avant ton souvenir, dès le commencement, afin que la postérité, instruite par toi, le pût apprendre. Si tu as à rechercher quelque autre chose ne surpassant pas l'intelligence humaine, parle. Fin du livre 7. Enregistrement par Thomas Copeland.
Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 16th through the 26th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your bedroom, living room, or home office, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.